Bon, dans les missels, la vigile pascale est bien distinguée, donc c'est distingué dans la liturgie. Et donc il y a quatre parties, hein, vous connaissez certainement. Je ne vous ai pas fait de petits papiers, mais en reste encore d'autres fois. S'il y en a qui ont des trous de mémoire, j'en ai peut-être 6 ou 7, pas beaucoup. Jérôme ?
Ouais.
Voilà, donc c'est une cérémonie. Hier, il y avait 5 parties, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu. Aujourd'hui, il y en a 4. Donc 4 parties dans la cérémonie. La première, donc, c'est Jésus-Lumière. Jésus-Lumière. Ensuite, on a Jésus-Parole, le Verbe de Dieu, la parole incarnée. Ensuite, on a Jésus-Eau vive, avec le renouvellement des promesses du baptême. Et puis, enfin, Jésus, pain vivant, le pain de vie. Hein. Jésus, pain vivant. Voilà, en simplifié, la cérémonie de ce soir. Donc, Jésus, lumière. Donc, la cérémonie commence dans les ténèbres. On se réunit. Donc, à l'extérieur de l'église, et le célébrant va commencer par bénir le feu nouveau. Alors, le caractère général de la cérémonie de ce soir, c'est la joie, hein, le triomphe de Jésus-Christ. Hier, c'était la tristesse, la souffrance, etc. Hein, mais cette souffrance a abouti à un triomphe joyeux. Donc, et ce triomphe joyeux, notre Seigneur nous y fait participer. Et donc la joie, et l'Église va la chanter tout spécialement dans le beau chant de l'Exultète, quand on arrivera dans l'Église. Donc c'est un chant qui a été composé, normalement c'est Saint-Augustin, on retrouve des traits de Saint-Augustin. Donc c'est très très beau avec une certaine poésie, hein. Mais bon, j'aurai pas trop de temps de vous faire des commentaires parce que il y a eu des beaux commentaires, mais ça me prendrait toute l'heure, donc. Je vous dirai simplement que c'est un résumé. Donc Jésus est lumière, bénédiction du feu nouveau. Il faut remonter autrefois à Jérusalem. Donc il y avait bénédiction du feu nouveau. Et donc on faisait sortir le feu du Saint-Sépulcre, miraculeusement. Donc on plaçait une lampe au-dessus. Alors, tout était éteint, on avait enlevé tout ce qui servait à faire du feu dans les maisons, etc. Et donc on priait, et pof, la lampe s'allumait miraculeusement toute seule. Et après, tout le monde venait emmener du feu chez eux pour allumer les lampes, faire cuire les aliments, etc. Donc ce miracle-là s'est renouvelé pendant des siècles, hein, il y a des témoins. Donc c'était un prodige annuel, donc ça avait lieu justement la vigile pascale. Donc il se manifestait à Jérusalem après la conquête de cette ville par les Sarrasins. Donc ça s'est manifesté là justement pour essayer de convertir un peu les Sarrasins, pour montrer que voilà, la foi chrétienne, c'est des choses qu'on peut pas expliquer comme ça. Donc, ça devait être un signe de la divinité de notre religion. Hein. Donc, c'est attesté unanimement par les historiens contemporains, et ils nous ont laissé le récit des événements du royaume latin de Jérusalem. Et lorsque le pape Urbain II vint en France pour y prêcher la première croisade, entre autres motifs qui devaient rendre cher aux chrétiens de l'Occident l'honneur du Saint-Sépulcre, du Christ, il ne manqua pas d'insister sur ce prodige de chaque année. Donc c'est le pape lui-même qui dit ça, hein, comme attesté par tous les pèlerins de la ville sainte. Ah, tout le monde le voyait. Hein. La lampe qui était au-dessus du Saint-Sépulcre, pop, ça s'allumait miraculeusement. Hein. Donc nous, quand on va, bien sûr, on ne va pas gratter un silex, on va prendre du temps, la prière n'est peut-être pas très habituée, mais donc c'est plus simple. Hein. Donc on va prendre du feu, voilà, et puis on va on allume le feu avec les moyens modernes, bien sûr, hein, et puis on va prendre de ce feu pour allumer les charbons, hein, qui vont servir à faire brûler l'encens. Donc ce feu matériel, qui autrefois apparaissait miraculeusement, c'est le symbole du Christ, lumière du monde. Notre Christ, notre Seigneur est sorti lumineux du tombeau. C'est le symbolisme qu'il faut retenir. Ensuite, il y aura la bénédiction du cierge pascal. Donc le cierge pascal, il faut bien se dire que c'est le Christ. La flamme, donc il est lumière. Hein. Et puis la chaleur de la flamme, c'est la charité du Christ. Donc ça, les grains d'encens qui vont être fixés dans les... Donc sur le siège pascal, il y a une croix avec 5 trous. Voilà. Donc ces 5 trous symbolisent les 5 plaies glorieuses du Christ. Hein. Et puis on va y mettre des grains d'encens, donc quelque chose qui sent bon, les grains d'encens. Et ils ont une forme de clou. Donc ça va signifier l'embaumement que vont faire Sainte Marie-Madeleine et les Saintes Femmes qu'elles ont préparées pour embaumer le corps mort de notre Seigneur. Alors ensuite, quand le cierge pascal est béni, il est allumé, on va processionner derrière notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours se dire ça, le cierge pascal, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le peuple chrétien marche derrière, et le saint, ça réalise les images qui étaient dans l'Ancien Testament, le peuple hébreu qui est sorti de l'Égypte et qui suivait la colonne de feu, la nuit, donc qui les illuminait, et le jour, c'est une colonne de nuée, au contraire, qui les cachait. Mais là, le symbolisme, c'est la colonne de lumière qui éclairait les Hébreux pour qu'ils marchent la nuit, pendant que les Égyptiens, ben, eux, ils ne pouvaient pas marcher, forcément. Parce qu'ils étaient tout un peuple, hein, ils étaient, je crois, 2 à 3 millions, quand même, donc ça ne se déplace pas comme ça, un peuple. Donc, il fallait une colonne de lumineuse qui les éclaire, eux, et qui fasse l'obscurité derrière. Voilà. Donc cette image de l'Ancien Testament, eh bien, elle est réalisée par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la vraie lumière, qui va nous conduire de cette terre, dans cet esclavage de l'Égypte, où il y a le péché sur cette terre, pour nous conduire au ciel. Voilà. Ce sera la terre promise, où là, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus que de la joie et de la lumière. Donc quand on arrive dans l'Église, il y aura une ostension du cierge pascal, Lumen Christi, hein, 3 tons de plus en plus élevés. Donc ces 3 ostensions symbolisent la Sainte Trinité, la Sainte Trinité, la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc voilà, on peut résumer un petit peu cette première partie-là. Donc le Christ, c'est le cierge pascal, c'est la lumière du monde, qui nous a fait connaître la Sainte Trinité. Parce qu'elle était déjà dans l'Ancien Testament, mais elle était un peu à l'état d'ébauche. C'était pas si clair que ça. Ensuite, une fois qu'on est dans l'Église, on va allumer progressivement les cierges de tous les fidèles. Et puis, on va chanter ce fameux exultet, donc l'Église qui exulte de joie, parce que son Sauveur est ressuscité, et que cette résurrection, elle est le gage de notre résurrection à nous. Le Christ n'est pas ressuscité tout seul, il est ressuscité pour former son corps total, le Christ en entier, qui sera fait de tous les saints du ciel, et c'est ce Christ total qui rendra une louange parfaite à Dieu, une louange de joie, de miséricorde. Ce sera un bonheur parfait de tous les instants et dont on ne se lassera jamais. Alors, ce corps du Christ, il est en formation ici-bas. Donc, le Seigneur, il a fondé son Église, donc il va prendre des hommes qui le veulent bien pour pouvoir suivre son chemin à lui. Parce que la vie ici-bas, c'est un... Comment on en dira ? On doit suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ Il est venu, il a souffert, il est mort pour ressusciter. Eh bien, nous, dans notre vie, c'est la même chose. Il n'y a jamais une vie où, qui se passe dans une paix, une tranquillité idyllique, ça n'existe pas sur Terre. Les méchants peuvent avoir cette paix-là, effectivement. Le bon Dieu leur fait qu'ils réussissent tout, parce que de toute façon, ils sont voués à l'enfer, donc autant qu'ils en profitent un peu sur Terre. Mais voilà, c'est un peu ça, souvent, le bonheur des méchants. Si jamais ils se passe rien, mais c'est qu'ils sont perdus, quoi. C'est qu'ils sont perdus. C'est un peu l'histoire, vous savez, du riche et du pauvre Lazare. Donc le riche, il faisait bonne chère, etc. Il vivait bien, etc. Et puis le pauvre Lazare, lui, il mendiait à la porte du riche. Et il pouvait même pas avoir quelques miettes, quelques restes, rien. Ben oui, mais après, à la fin, le riche lui a dit, vous avez eu votre récompense sur la terre, maintenant c'est fini. Maintenant c'est fini. Ouais. Donc, souvent, mais en général, même des méchants, le bon Dieu les appelle toujours pour qu'ils se convertissent. Hein. On en a plein d'exemples dans l'histoire de l'Église. Donc, cette exultète au milieu de ce chant, donc on parle de l'heureuse faute d'Adam qui nous a valu un tel sauveur. Alors souvent, quand on commence dans la vie chrétienne, bon, on dit quand même, heureuse faute d'Adam, s'il n'y avait pas fauté, on ne serait pas là où on en est, quoi. Ben oui, mais justement, c'est qu'on n'a pas compris. On n'a rien compris, quoi. Parce que le monde qui sort de la résurrection de notre Seigneur est beaucoup plus parfait, sera beaucoup plus heureux que le monde qui serait sorti d'Adam et Ève et qui serait parvenu à la gloire d'une manière, enfin, sans péché, mais il n'y aurait pas eu... Alors là, il y a des auteurs qui disent des opinions un peu différentes, mais il n'y aurait pas eu besoin d'incarnation de notre Seigneur, puisque pourquoi s'incarner? Puisque de toute façon, Adam et Ève et ses descendants, ils se seraient perfectionnés, hein, sans péché, et puis ils seraient passés directement au ciel, un peu comme une dormition, ils ne seraient pas morts, puisqu'ils ne mourraient pas. Hein. Mais ce monde-là aurait été beaucoup moins beau, beaucoup moins glorieux, aurait rendu moins de gloire à Dieu que le monde qui existe parce qu'on a un Rédempteur. S'il n'y avait pas eu Jésus-Christ, il y aurait eu Adam. Mais Adam, c'est quand même pas Jésus-Christ. Même s'il est parfait, même s'il avait été glorieux, il sera glorieux un jour. Mais c'est quand même pas la même hauteur que Jésus-Christ. Voyez ? Parce que Jésus-Christ, il a à la fois Dieu et homme. Et il a refait toute chose d'une manière beaucoup plus parfaite. Donc c'est pour ça qu'on chante heureuse faute d'Adam. Mais souvent, on voit ça pas très facilement parce qu'on n'a pas envie de combattre. Justement, c'est à cause de ça. On voudrait que tout soit facile, pas de péché, pas de tentation. Donc on vit heureux sur la terre, voilà, en attendant que ça se passe. Mais non, il faut justement suivre notre Seigneur. On a des croix tous, il y a des épreuves. Et notre Seigneur a tout fait pour que nous soyons vainqueurs dans ces épreuves. On a toutes les grâces qu'il faut pour être vainqueur. Et si on est vainqueur, et bien on sera avec lui vainqueur dans le ciel. Donc c'est ce sens-là de l'exultète. Hein. Heureuse faute, voilà. Il ne faut pas s'en scandaliser, mais il faut au contraire s'en réjouir, parce que c'est grâce à cette faute, enfin pas grâce à la faute, mais l'occasion de cette faute a été d'avoir un Rédempteur. Parce que le bon Dieu, lui, il voit tout d'avance, tout est déjà prévu. Donc il avait vu cette faute. Il avait créé Adam et tout ce qu'il faut pour qu'il aille au ciel, mais il savait qu'il allait pécher. Mais il avait déjà prévu un Rédempteur. Vous voyez ? Sachant que c'était un plus grand bien. Alors maintenant, nous passons à la deuxième partie, la Jésus-parole. Donc, il y a quatre lectures. Donc la première, alors chaque lecture, ensuite il y a un trait, et puis ensuite il y a une oraison, hein, donc c'est un petit peu étoffé. La première lecture, c'est le récit de la création. Donc vous avez un parallèle finalement entre la création ancienne, hein, l'univers tel qu'on le connaît avec les galaxies, etc., la Terre, et puis toujours se dire que le bon Dieu a tout créé, le monde matériel, pour l'homme. Il l'a placé au centre de l'univers. Vous voyez ? Il a fait un luxe incroyable de galaxies, d'étoiles, de planètes, etc. Tout ça pour l'homme. Il aurait pu créer que la Terre, que la Lune, le Soleil, les planètes, puis point final, il n'y a pas d'autre chose. Non, il a fait un monde luxuriant, parce que le bon Dieu, lui, il n'est pas mesuré dans les choses, vous voyez. Quand vous voyez dans la nature un chêne, bah, faut qu'il se reproduise. Donc, on pourrait dire un chêne, il va produire une centaine de glands pour pouvoir se reproduire. Bah non, un chêne, il y a des centaines et des centaines de glands sous le chêne pour tout ça pour reproduire le chêne. Donc, dans l'univers, on a l'impression qu'il y a un luxe de. Voilà. Mais c'est pour l'homme. Et il n'y a que la Terre qui est habitable. Alors justement, les hommes qui ne croient plus en Dieu, ils pensent que l'univers est tellement vaste que bah forcément, il y a de la vie ailleurs qu'on ne peut pas connaître. Et donc, voilà, donc le monde, c'est l'esprit naturaliste. Hein. Donc, la première création, donc, c'est la lumière. Mais dans l'ordre de la création, ce n'est pas un ordre tel que ça s'est peut-être passé en réalité, mais il y a un ordre, comment dire, logique. C'est d'abord la lumière. Donc la lumière, parce qu'elle est le principe du monde naturel. Les principes du monde naturel, et dans le monde qui a été glorifié, eh bien le principe, c'est notre Seigneur, qui est la lumière surnaturelle. Vous voyez? Don Maréchaux fait cette remarque-là pour la création, donc il rappelle la création, il dit que c'était pour enseigner aux païens, parce que les païens, bien sûr, les Juifs étaient au courant de la création, mais les païens, non. Eux, ils pensaient qu'ils confondaient la création avec Dieu, hein, le panthéisme, etc. Et Don Maréchaux fait la remarque en disant que le monde actuel aussi, il a besoin qu'on lui parle de la création du monde matériel, parce que, justement, il croit en l'évolution, etc. Donc, alors, il insiste bien, il dit non, Dieu a créé, etc. Les différentes plantes, les différentes matières, etc. Mais la plante ne peut pas sortir de la terre, c'est pas possible. Elle sort de la terre du jardin parce qu'on a mis une graine, mais si vous mettez que de la terre, vous avez beau attendre des siècles, des milliers d'années, il sortira jamais une plante. Ouais. Bah, pareil pour la plante, il sortira jamais un animal. Bon, bah oui, mais Don Maréchaux insiste, et pourtant à l'époque, je pense pas que l'évolutionnisme, c'était peut-être en formation, mais c'était pas très développé, quoi. Mais, en voyant, le monde sans Dieu, mais finalement, il revient aux erreurs passées dans les siècles passés. Donc, création du monde matériel, se retenir que c'est pour l'homme. Voyez, l'homme est l'être raisonnable, intelligent, qui doit gouverner la Terre, l'univers. Voilà, il doit prendre soin de ce monde que le bon Dieu lui a donné. Voyez, c'est quelque chose de beau, vous voyez. Vous voyez, il y a des déviations. Si on prend maintenant avec l'écologie, etc., on dit bah, faut prendre soin d'autres mondes. Ben, ça, c'est vrai. Donc, il faut prendre soin du monde, etc., de la Terre. Et donc, bah oui, mais l'homme, il pollue la Terre, il respire, etc. Donc, il faut supprimer l'homme. Donc, c'est tout l'inverse, vous voyez. Dieu a créé l'univers pour l'homme, il doit le gérer. Et maintenant, on nous dit non, l'univers vient de l'évolution, du hasard, tu mets les choses, et l'homme, il est trop, il faut le supprimer, parce qu'il pollue la belle création, donc la nature, il faut enlever l'homme, ou en laisser un tout petit nombre. Ouais. Donc, vous voyez, c'est toujours le démon qui singe Dieu, vous voyez, il fait l'inverse, vous voyez. Alors, la deuxième lecture, c'est le passage de la mer Rouge. Donc, ça. Il symbolise le passage des catéchumènes à la vie divine. Donc, passage par l'eau du baptême, comme les Hébreux qui sont passés par la mer Rouge. Donc, quand ils passent la mer Rouge, à pied sec, hein, dit le psaume, quand ils sont passés, ils arrivent de l'autre côté, le pharaon, qui symbolise le démon, il rentre avec toute son armée, l'armée des démons, voyez. Et une fois qu'ils sont bien au milieu de la mer Rouge, Moïse, sur l'ordre de Dieu, referme les eaux, ils sont tous engloutis. Donc ça symbolise bien le baptême, vous voyez. Le baptême, un adulte par exemple, il a fait des péchés dans sa vie, il est baptisé, eh bien, tous ses péchés sont engloutis dans le baptême, dans les eaux du baptême. Alors ensuite, après cette lecture-là, il y a le chant du cantique de Moïse. De fait, c'est la sœur de Moïse, qui a été inspirée par le Saint-Esprit et qui a chanté un cantique. Voilà, elle a été inspirée, elle a chanté un cantique. Hein. Bon, je ne vais pas vous lire, ça nous emmènerait trop loin. Et puis après, il y a une oraison, après ce cantique de la sœur de Moïse, qui dit ceci: Dieu dont les antiques miracles se manifestent glorieux, même à notre époque, accordez-nous, nous vous en prions, que comme vous avez délivré le peuple d'Israël de l'Égypte, vous le fassiez également par les eaux du baptême pour le salut des nations. Ensuite, la troisième lecture, c'est une prophétie d'Isaïe. Donc, Isaïe, c'est une espèce de chant dans lequel il célèbre les faveurs que le Christ a prodiguées à son Église, qui est sa vigne chérie. Donc, il parle de l'Église comme la vigne. Alors, il est entouré d'une muraille, il a bâti un pressoir, etc. Notre Seigneur reprend ces images-là. Il parle de sa vigne, vous voyez. Donc, c'est l'Église, il a fait comme sa vigne, il a soigné avec amour, voilà. Hein, et donc, il en attend des fruits. Hein. Alors, dans l'Ancien Testament, c'était la synagogue. Donc, le bon Dieu l'avait soigné aussi, voilà, il l'avait mis à part, il l'avait enseigné, mais de fait, elle n'a pas produit de fruits. Donc, c'est pour ça qu'il a donné sa vigne à d'autres. Hein. Donc, c'était les nations païennes qui sont rentrées dans le sein de l'Église. Ensuite, la quatrième lecture, donc c'est un appel du Sauveur à s'approcher de la source de la grâce. Donc c'est un vibrant appel à la conversion, qu'on peut résumer ainsi. Notre Seigneur paie pour nous, il nous offre les fruits de sa rédemption. Il faut répondre à son appel. Les conditions pour répondre à son appel, il faut se reconnaître pécheur et renoncer au péché. Bon, ça paraît simple, il faut le faire, mais c'est ce qu'a fait le bon larron. Hein? Il s'est reconnu pécheur, ben, pour nous c'est juste, il dit à son camarade, là, criminel, ben, nous c'est juste, on est crucifié, mais vu ce qu'on a fait toute notre vie, c'est juste. Donc il s'avoue pécheur, et puis il confesse Jésus-Christ. Lui, il est innocent, il n'a rien fait. Donc, il va au ciel. Enfin, pas tout de suite, hein, mais il va bénéficier de la vision de Jésus. Hein, il va l'emmener au limbe avec lui, etc. Puis après, il va l'emmener au ciel après 40 jours. Hein. Et donc, cela parle aussi de la grande miséricorde de Dieu. Voilà, grande miséricorde vis-à-vis des grands pécheurs. On la voit, elle est vraiment à l'action. Alors ensuite, c'est suivi d'un trait. Ça, vous le connaissez bien. C'est le fameux trait, donc comme le cerf soupire après les sources des eaux, ainsi mon âme, après vous, ô mon Dieu, mon âme a soif du Dieu vivant. Quand viendrai-je et apparaîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes ont été ma nourriture le jour et la nuit, pendant qu'on me dit tous les jours, où est ton Dieu? Donc ça, on le chante assez souvent dans la liturgie. Donc c'est l'âme qui soupire après le ciel, finalement. Alors ensuite, troisième partie, je vais un peu vite, hein, mais comme on est un peu limité, Jésus, eau vive. Donc ça sera le renouvellement des promesses baptismales, donc avec toute la cérémonie de la confection de l'eau baptismale. Il y a d'abord une bénédiction de cette eau. Alors elle est encadrée par les litanies des saints, donc vous voyez, c'est un peu grandiose, vous voyez. C'est pas une simple bénédiction qui dure 2 minutes, vous voyez. Donc on dit les litanies des saints, on les chante. Hein. Et puis ensuite, il y a cette bénédiction qui est assez longue. Elle se dit sur le ton solennel des préfaces, vous voyez. C'est un ton spécial, c'est le ton des préfaces, hein, pour montrer la solennité de cette bénédiction et de la valeur de cette eau qui va sortir et qui va faire des chrétiens. Hein. Donc les chrétiens, ils vont sortir de cette eau baptismale. Voilà, ce sont les heureux poissons du Christ. Hein. Donc la bénédiction de l'eau pour le baptême, Si on pourrait dire, on peut prendre n'importe quel eau. Au début, les apôtres, le diacre Philippe, il a baptisé, le ministre de la reine Candace dans le Jourdain, enfin, ou dans une, je sais pas, un fleuve qu'il y avait là, une rivière. Donc, il prenait les moyens qu'il y avait à l'époque. Mais les apôtres ont tout de suite confectionné de l'eau pour le baptême. C'est de tradition. Alors, la première partie de la cérémonie, il y a d'abord la division des eaux en forme de croix. Il y a tout un symbolisme qu'il faut quand même comprendre, vous voyez. Hein. Donc, le prêtre, il divise les eaux, donc en forme de croix. Hein. Donc, c'est par la croix que ces eaux ont acquis le pouvoir de régénérer les âmes. Pour moi, c'est le sens. Hein. Ensuite, le prêtre touche l'eau avec sa main. Donc, les mains du prêtre sont consacrées. Est donc source de sanctification. Donc par cette imposition, il purifie et protège cette créature qu'est l'eau de toute influence diabolique. Il y a tout un sens à tous les gestes que va faire le prêtre. Ensuite, il va diviser l'eau. Alors, vous avez peut-être déjà remarqué, il fait comme ça, donc il envoie derrière, il envoie devant, à côté et à droite. C'est les points cardinaux. Donc ce rite rappelle les quatre fleuves qui fécondaient le paradis terrestre. De même que ces quatre fleuves fécondaient toute l'étendue du paradis, de même l'eau du baptême se répandra à travers le monde entier par la prédication et rendra la terre féconde, c'est-à-dire elle donnera des saints pour l'Église, pour le ciel. Vous voyez, toujours, toute l'histoire de l'Ancien Testament, c'est toujours des figures, des préparations du nouveau. Il faut toujours bien. Et la liturgie reprend tout ça. Voyez, et c'est très instructif. Puis c'est imagé, c'est concret. Ça nous aide à bien comprendre les choses. Ensuite, le prêtre va souffler trois fois. Bon, on l'a déjà fait à la cérémonie, à la messe chrismale. On souffle trois fois sur les saintes huiles. Hein. Là, il va faire ça sur l'eau, justement. Donc, c'est le Saint-Esprit, le souffle du Saint-Esprit. Parce que c'est facile. Le Saint-Esprit, il souffle, le souffle, nous, c'est facile. Donc, il y a un parallèle entre la première création, où le Saint-Esprit, il planait sur les eaux, selon les paroles de la Sainte Écriture, et puis la deuxième création, où il opère la régénération par la grâce. Donc, le jour de la Pentecôte, vous vous rappelez, il se fit comme un vent violent. Puis on a vu des langues de feu. Donc vous voyez, c'est le souffle du Saint-Esprit. Alors qu'à la création, la première création, le monde matériel, le Saint-Esprit, il souffle pas, il plane sur les eaux. Vous voyez, c'est un peu différent son action. Ensuite, une autre petite cérémonie. Le prêtre va plonger trois fois le cierge pascal dans l'eau. Donc ce rite exprime le mystère du baptême du Christ dans le Jourdain. Il était baptisé trois fois dans l'eau. Alors, toujours se rappeler, le cierge pascal, c'est le Christ. Donc, s'il se plonge trois fois dans l'eau, eh bien, ça rappelle le baptême de Christ. Vous voyez ? Alors, au baptême du Christ, vous rappelez, il est apparu la colombe. Et puis ensuite, la voix du Père qui a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances. » Il y a toujours la Trinité présente. Donc là, on souffle trois fois pour rappeler que eh bien, la Trinité est aussi présente. Donc elle se fait par la puissance du Saint-Esprit, la vertu du Christ, et puis bien sûr, le Père aussi est au principe de tout ça. Hein. Ensuite, on va retirer à ce moment-là de l'eau pour asperger les fidèles et les maisons pendant tout le temps pascal. Donc ça, on l'appelle l'eau pascale parce qu'elle a reçu une bénédiction spéciale, mais il n'y a pas eu de sainte huile de mise dedans. C'est de l'eau avec une bénédiction spéciale. Donc si vous voulez faire bénir une maison que vous avez achetée, vous avez changé d'appartement, en temps pascal, il y a une bénédiction qui est spéciale, qui n'est pas plus longue que l'autre, mais avec une raison spéciale, et on prend de l'eau pascale. Alors après, quand on a retiré cette eau pascale, bon, on n'en retire pas trop, parce qu'il n'y a pas 36 maisons à venir, forcément pendant le temps de Pâques, hein, on va imposer les saintes huiles. Parce que l'eau baptismale n'est pas encore faite, là. Vous voyez? Elle n'est pas encore faite. Hein. Donc, pour honorer cette fontaine de salut que l'Église répand sur les eaux, elle va mettre l'huile des catéchumènes et le Saint-Crème. Donc, c'est pour manifester la surabondance de grâces qui sont accordées à ces eaux. Ensuite, on va renouveler les promesses du baptême. Donc, dans les premiers siècles de l'Église, c'était ce jour-là qu'on baptisait. Il n'y a pas d'autre jour. Maintenant, on baptise tous les jours, c'est possible. Mais là, on baptisait voilà, spécialement à la vigile pascale. Alors, il devait y avoir beaucoup de monde, certainement. Hein. Donc, par cette, vous connaissez la rénovation des promesses du baptême. Donc, on renonce à aux démons, à ses œuvres, à ses séductions. Et puis, nous nous attachons à Dieu Trinité. Donc, nous croyons, après, on va réciter le credo. Nous croyons à la Sainte Église catholique. Donc, à la Sainte Église catholique. Donc, il faut toujours se dire, l'Église catholique, elle est sainte. Elle est sainte dans sa doctrine. Elle est sainte dans, elle produit des saints. Elle est sainte parce qu'elle descend des apôtres. Enfin, elle est, comment on dit, une parce qu'elle n'a qu'une doctrine, elle n'a qu'un chef, même s'il a des défauts, il n'en a qu'un. S'il y en a eu trois, il y a eu grand schisme, mais c'était un scandale, justement, s'il y a trois chefs. Non. Mais elle a un chef invisible, notre Seigneur, et elle a un chef visible, le Pape. Bon. Voilà. Et puis, elle est une sainte, donc elle est sainte par sa doctrine. Sa doctrine ne change pas, même si les pasteurs enseignent autre chose. Mais la doctrine, elle ne bouge pas, elle. Elle était consignée dans les conciles, etc. Elle n'a pas bougé. Hein. Et puis, elle produit toujours des saints. Au XXe siècle, il y a eu des saints. Padre Pio, il y en a beaucoup, on pourrait citer, on ne connaît pas tous, mais il y en a eu. Hein. Alors, vous voyez toute la... Pas un peu l'idiotie des évêques, dans les années 90, c'était ou 2000, quand ils ont demandé pardon au nom de l'Église, l'Église demandait pardon pour, soi-disant, les scandales qu'il y a eu dans le passé, nos pauvres frères protestants, les pauvres Indiens d'Amérique, enfin, tout y est passé, quoi. Voilà, l'Église qui demande pardon. L'Église, elle ne demande pas pardon, elle est sainte. Les hommes d'Église doivent demander pardon. Oui, d'accord. Mais pas l'Église. Alors ensuite, nous arrivons à Jésus, pain vivant. Voilà, donc la messe. Donc c'est le sommet de la cérémonie, puisque les symboles vont laisser place à la réalité. Donc tout va être très très beau, bon, même si nous, c'est assez sobre chez nous, mais l'autel est orné, les chandeliers, voilà, tout est préparé pour manifester la joie. Il y a des bouquets pour le cierge pascal sur l'autel. Il y a des fleurs partout. Voilà. Ensuite, au Gloria, on va chanter, on va carillonner. Hein, donc, c'est très joyeux. Hein, tous les voisins entendent. Et ils sont contents. Souvent, ils sont contents. Ils sont contents. Hein, des gens qui ne pratiquent pas, ils sont contents parce qu'il y a des catholiques qui ne savent pas. Si. Hein, on nous a déjà dit. Hein, des gens qui ne viennent jamais mettre les pieds ici. Hein, et on est content d'entendre les cloches. On sait qu'il y a des moines qui prient, etc. Donc les cloches, si les anciens se rappellent peut-être, mais elles ont été, il y a une cérémonie spéciale pour bénir les cloches. Et les cloches, elles sont chargées de prêcher. Ah oui, elles prêchent. Ouais. C'est pour ça que les voisins, quand ils entendent les cloches, même nous, quand on entend les cloches de la cathédrale, etc., même s'il n'y a plus de prédication... Très catholique à la cathédrale, peut-être encore un peu, j'en sais rien, mais en tout cas, les cloches, quand on entend les cloches, on entend, c'est la voix de l'Église, vous voyez, c'est les cloches, c'est les chrétiens viennent à la messe ce dimanche, etc., ça nous rappelle les bonnes années de notre petite enfance, vous voyez, mais donc, et les cloches, elles ont une bénédiction pour justement dire ça, hein. Donc les frères, ils vont quitter la chape, voilà, on va remettre le surplis, bon, ouais, vêtements blancs, c'est la joie. Hein. Et puis l'épître, elle est toute spéciale, c'est la doctrine de saint Paul, donc où il dit, bien, nous appartenons au Christ, Nous ne sommes plus de la terre. Toute notre vie, toutes nos pensées, nos actes doivent être orientés vers le ciel. Où la vie de la grâce cachée en nous doit s'épanouir dans la gloire, en gloire. C'est caché, mais n'empêche que c'est quand même, c'est présent. Voyez. Et Monseigneur Lefebvre, quand il était en Afrique, lui, quand il faisait les villages, dans les enfants, il arrivait à reconnaître les enfants païens des enfants chrétiens, les familles chrétiennes des familles païennes. Parce que les familles chrétiennes, surtout là-bas, s'ils étaient devenus chrétiens, ils étaient quand même fervents, vous voyez. De fait, ils ont la grâce, ça se voit. Ça se voit dans les yeux, une espèce de visage clair, enfin, vous voyez, ça se voit. Lui, il dit, ça se voyait. Donc là, nous, voilà, la vie chrétienne en nous, elle est cachée, mais mine de rien, ça se voit quand même. Ça se voit quand même extérieurement, pour des yeux aguerris, ça se voit, et puis ça se voit surtout par nos œuvres, vous voyez. Hein. Alors, le chant de l'Alléluia va se reprendre, là, joyeux, ça fait 70 jours qu'on l'a pas chanté. Hein. Donc c'est un mot hébreu qui est intraduisible. C'est un cri de joie, Alléluia, pas de traduction, c'est un cri de joie. Donc c'est un peu, c'est de l'hébreu, c'est comme l'amen, c'est à l'amen, c'est souvent des gens un peu qui pratiquent plus ou qui sont un peu païens, ils disent, oui, ben moi le latin, amen, amen, ben non, c'est pas du latin, amen, c'est de l'hébreu. Je leur réponds ça, ouais. Donc il exprime une grande joie, une jubilation, et puis toutes les austérités de la sainte quarantaine s'évanouissent. On a lutté, on a pris des résolutions, on s'est mortifié. Alors, nous, ça date pas du carême, puisqu'on commence au 14 septembre. Donc on est un peu rodé, quoi. Mais n'empêche que, à Pâques, on dit, ah, là, le temps pascal. Vas-y, c'est vrai, nous, on marque bien ça. Hein. Donc nous, plus de jeûne, plus de discipline. Voyez. Pendant l'année, on se donne la discipline une fois par semaine. Et pendant le carême, c'est deux fois par semaine. Bon, c'est pas beaucoup. Hein. Saint-Dominique se donnait trois fois par jour. Donc c'est autre chose. Hein. Donc, autant, voilà, temps pascal, plus rien de tout ça. Voilà, donc parce qu'on est tout à la joie de la résurrection. Hein. Alors, le trait qui suit... qui vient avant l'évangile, manifeste la raison de cette joie. Oui, la raison de cette joie, c'est la résurrection de notre Seigneur. Donc, je le reprends, c'est du Père Mortier, mais c'est vraiment très beau. Oui, je crois que c'est le Père Mortier. Hein. Il dit, par la mort du Christ, le Fils de Dieu fait homme, par sa glorieuse résurrection, nous possédons de façon certaine, définitive, immuable, la miséricorde de Dieu. Tous ceux qui veulent la miséricorde de Dieu, je suis pécheur, j'ai fait des mille bêtises dans ma vie, s'ils se tournent vers Dieu, comme le bon larron, il fera miséricorde. Vous voyez ? On est sûr de ça. Alors, on le voit, il y a des grandes conversions actuellement. Je n'ai pas tous les détails, mais il y a une femme qui faisait partie du planning familial en un pays d'Amérique du Sud. Je ne sais pas si c'est le Mexique... Donc, elle était à un poste de responsabilité important. Donc, elle faisait des conférences pour inciter les jeunes filles à se faire avorter et tout. Donc, elle a provoqué indirectement, par ses conférences, etc., des centaines peut-être d'avortements. Et de fait, elle s'est convertie. Le bon Dieu, je ne sais pas comment elle a fait, je ne sais pas trop son histoire, mais... Alors maintenant, elle milite pour la vie. Alors, je peux vous dire que son exemple a du poids, parce qu'elle connaît ces milieux-là. Elle a vécu toute sa jeunesse là-dedans. Et là, elle parle de son expérience aussi, parce qu'elle, elle a avorté plusieurs fois, je ne sais pas combien, mais beaucoup de fois. Et du coup, eh bien, le bon Dieu l'a choisi, c'est la condition pour qu'elle fasse son salut, à condition qu'elle prêche la vie, voilà, qu'elle prêche la vie, le respect de la vie. Oui. Il y a eu aussi un autre cas, on a un petit livret, c'est quelqu'un qui a vécu à l'Équateur, dans la République d'Équateur, une famille bien catholique, une famille nombreuse, et lui, il a mal tourné, si vous voulez, quand il était déjà à l'âge de 12 ans, il croyait pas au péché. Donc, de fait, il a tout laissé tomber. Puis, il a mené la vie de beaucoup de jeunes de notre époque. Il a fait des affaires, il a même fait du cinéma, Hollywood, etc. Au niveau religion, c'est un peu éclectique. Il a un peu, trempé un petit peu dans toutes sortes de religions, voir qu'est-ce qu'il a arrangé. Il s'est fait une religion à sa façon, vous voyez. Et de fait, il est revenu dans sa famille 8 jours avant Noël, parce que assister à la, aux funérailles de, je crois, d'une de ses sœurs ou un frère, ou ses parents, je ne sais plus exactement. Et dans la famille, c'était une coutume, ils sont très catholiques, ils faisaient la neuvaine à l'enfant Jésus de Prague. Alors ses sœurs lui disent, tu vas faire la neuvaine avec nous, puis ils avaient la coutume de demander une grâce spéciale à la fin de la neuvaine. Bon, il dit, faut faire la neuvaine, faut que je fasse la neuvaine, je crois plus à rien, c'est inutile. Bon, je vais faire la neuvaine avec vous, etc. Donc, ils ont fait la neuvaine. Alors, eux, la neuvaine, c'était pour convertir mon frère. Le dernier jour de la neuvaine, paf, attaque de terroristes, je sais pas quoi, c'était le sentier lumineux, je sais pas trop quoi. Il enlève, c'est une famille riche, c'est des familles très riches. Il l'enlève, puis il demande une rançon. D'ici dans une semaine, la rançon n'est pas donnée, on le supprime. Alors il est enfermé dans une caverne dans la forêt tropicale, etc. Ils lui ont donné à manger une soupe lamentable. Et puis, tous les jours, il disait, c'est peut-être le dernier jour, quoi. Alors imaginez l'angoisse. Alors au bout de je sais plus combien de jours d'angoisse, il voulait prier, mais il se rappelait même plus ses prières, quoi. Il n'arrivait plus à prier. Et du coup, il a eu une expérience mystique. Notre Seigneur est intervenu, il lui a fait voir l'enfer. Il a dit, c'est là que tu dois aller. Donc, si tu ne changes pas, tu vas là. Et donc, après, quand c'était terminé, donc là, il a pu se souvenir d'une prière, peut-être de notre Père. Et puis, il disait, je ne peux pas me confesser, il n'y a pas de prêtre, rien. Voilà. Donc, il était très angoissé. Et puis, finalement, ils ne l'ont pas tué. Alors, il l'a emmené dans un camion. Il dit, peut-être au bout d'un mois, peut-être, vous voyez. Donc, il avait maigri, il n'est pas rasé, enfin, tout sale, pas lavé, rien. Et finalement, ils l'ont lâché sur une route nationale, là. Puis, ils l'ont dit, allez, tu marches devant. Ça y est, ils vont me descendre, dès que je vais marcher, ils vont me tirer dessus, quoi. Alors, il était là, il marchait. Puis, il arrive un tournant avec des petits bosquets. Ah, il dit, si j'arrive là, ça y est, je suis sauvé, quoi. Puis de fait, il voulait pas le tuer. Donc quand il arrivait là, il s'est caché, etc. Après, il a attendu que passe un bus, puis il est rentré dans sa famille. Alors, il s'est converti, quoi. Alors maintenant, sa vie, il doit avoir 55 ans par là-dedans, il prêche sur l'enfer. En même temps, il prêche aussi d'autres choses, d'autres vérités catholiques, mais surtout sur l'enfer. Alors il va dans les... où on veut bien l'accueillir, parce que dans les paroisses, on veut pas de lui, hein. Monsieur, vous êtes converti, vous prêchez sur l'enfer, je ne veux pas de vous. Non, mais il y a quand même des fois des paroisses qui l'accueillent, ou des communautés de chrétiens qui l'accueillent, ça ne se fait pas officiellement. Et de fait, il prêche sur l'enfer, et du coup, il est sauvé à cause de ça, à condition qu'il fasse cette prédication. Ouais. Et il dit des belles choses, quoi. Ouais. Et puis, il parle d'expérience, il dit, moi, chaque fois que quand je vois la terre, etc., je vois les gens qui vivent mal et tout ça, qui... sans religion et tout, je me dis, mais l'enfer, il est juste dessous, là, etc. Ils vont y aller, etc. Bon. Donc, voyez, nous, on possède de façon certaine, définitive, immuable, la miséricorde de Dieu. Son pardon, sa grâce, sa vie pour l'éternité. Avec lui, le ciel est nôtre, si nous voulons. Ouais. Et cette miséricorde ne passera pas. Elle est établie sur la vérité de Dieu. À la bénédiction de Serge Pascal, on va bénir Jésus-Christ hier et aujourd'hui. Hein. Odier et hier, voilà. Bon. Et donc Jésus-Christ maintenant, c'est le centre de l'histoire. C'est le centre d'histoire. On est pour lui ou contre lui. Hein. Même ceux qui disent « Moi, je ne veux pas de Jésus-Christ, je ne connais pas, etc. Je ne m'occupe pas. » Ah ben oui, mais il n'y a pas de chance. Notre Seigneur dit, celui qui ne croira pas est déjà condamné. Le fait qu'il n'accueille pas ma parole, ma miséricorde, ma rédemption, que j'ai, il a gagné tous les hommes qui veulent bien, Ben, ceux qui n'acceptent pas, ils sont déjà condamnés, voyez. Mais donc c'est une grande espérance, même pour les pêcheurs, voyez. Si jamais vous avez affaire à des grands pêcheurs et tout, qui sont désespérés, ben, faut leur dire non, Jésus-Christ, il est mort pour tous, pour vous aussi. Puis regardez, vous trouvez que vous êtes un grand pêcheur, mais le bon larron, lui, est encore pire que vous. Donc, mon Dieu, il l'a emmené tout de suite dans son ciel. Donc, si vous convertissez, vous reconnaissez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Reconnaître ses péchés, et puis ben, rentrer dans l'église, se faire baptiser si on n'est pas baptisé, et puis ensuite mener la vie de chrétien. Voilà, donc l'évangile. Oui, il ne reste plus beaucoup de temps. Alors, il y a un beau petit texte. Donc, c'est l'évangile de la résurrection, les saintes femmes, etc. Qui cherchez-vous? L'ange lui dit, ben, Jésus-Christ, mais il n'est plus ici. Hein. Donc, il y a le père Mortier, un beau petit commentaire, je vous le lis. Donc, l'ange leur dit, ne craignez pas. Ne craignez pas. Elle arrive au tombeau, un ange lumineux, assis sur la pierre, c'est impressionnant, quoi. Elle craignait, quoi. Ne craignez pas, dit-il à ces deux femmes éplorées. Ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus. Celui qui en ce monde cherche Jésus, que pourrait-il craindre? Mais il faut le chercher loyalement, toujours. Dites aux choses de la terre, vous ne m'êtes rien. Ouais. Les biens, Internet, tout ça, nul. Je passe au milieu de vous comme un étranger. Je cherche mieux que vous, je cherche Jésus. Je le cherche pour que ma pensée soit remplie de lui. Je le cherche pour que mon cœur n'aime que lui, pour qu'il en soit le souverain absolu. L'unique, pour qu'il y vive seul et que seul il soit aimé. Cherchez Jésus partout, en tout, et votre vie humaine, cette petite vie si chétive, deviendra une vie divine. Personne ne peut vous enlever ce trésor. Vous qui cherchez Jésus, ne craignez pas. Rappelez, ça rappelle un peu la parole de saint Paul. Qui pourra me séparer de l'amour de Jésus-Christ? Rien. Alors il passe en rue plein de choses. Ni la mort, ni les tortures, rien, absolument rien. Vous voyez? Voilà, donc après l'évangile, il y a beaucoup de choses qui sont supprimées. Donc il n'y a pas de credo, il n'y a pas d'offertoire, il n'y a pas d'Agnus Dei. Hein. Et par contre, il y a préface propre, communicantes propre et antigitur propre. Hein. Et puis après, donc il y a la communion. Voilà, communion. Donc bien se préparer, donc c'est une cérémonie qui nous prépare bien à la communion. Vous voyez, hein. Donc elle doit nous animer d'une grande ferveur. Bien sûr, c'est pas notre première communion, mais ça nous rappelle la première communion des néophytes, voilà, qui étaient baptisés et qui communiaient pour la première fois à la vigile pascale. Donc nous, on peut, eh bien, renouveler notre ferveur à cette communion de la vigile pascale.